Chapitre 9. Les chagrins de la police. En sachant ses fils menacés de mort, Madame d'Auxerre, qui ne croyait pas la révolution finie et qui connaissait la sommaire justice de ce temps, reprit ses sens et ses forces par la violence même de la douleur qui les lui avait fait perdre. Ramenée par une horrible curiosité, elle descendit au salon dont l'aspect offrait alors un tableau vraiment digne du pinceau des peintres de genre. Toujours assis à la table de jeu, le curé jouait machinalement avec les fiches en observant à la dérobée Peyrade et Corentin qui, debout à l'un des coins de la cheminée, se parlaient à voix basse. Plusieurs fois le fin regard de Corentin rencontra le regard non moins fin du curé, mais, comme deux adversaires qui se trouvent également forts et qui reviennent en garde après avoir croisé le fer, l'un et l'autre jetaient promptement leurs regards ailleurs. Le bonhomme d'Auxerre, planté sur ses deux jambes comme un héron, restait à côté du gros, gras, grand et avare Goulard dans l'attitude que lui avait donnée la stupéfaction. Quoiqu'il fût vêtu en bourgeois, le maire avait toujours l'air d'un domestique. Tous deux, ils regardaient d'un œil hébété les gendarmes, entre lesquels pleurait toujours Gothard, dont les mains avaient été si vigoureusement attachées qu'elles étaient violettes et enflées. Catherine ne quittait pas sa position pleine de simplesse et de naïveté, mais impénétrable. Le brigadier, qui, selon Corentin, venait de faire la sottise d'arrêter ses petites bonnes gens, ne savait plus s'il devait partir ou rester. Il était tout pensif au milieu du salon, la main appuyée sur la poignée de son sabre et l'œil sur les deux Parisiens. Les Durieux, stupéfaits, et tous les gens du château formaient un groupe admirable d'inquiétude. Sans les pleurs convulsifs de Gothard, on eût entendu les mouches voler. Quand la mère, épouvantée et pâle, ouvrit la porte et se montra presque traînée par Mademoiselle Gouget, dont les yeux rouges avaient pleuré, tous ses visages se tournèrent vers les deux femmes. Les deux agents espéraient autant que tremblaient les habitants du château de voir entrer Laurence. Le mouvement spontané des gens et des maîtres sembla produit comme par un de ces mécanismes qui font accomplir à des figures de bois un seul et unique geste ou un clignement d'yeux. Madame d'Auxerre s'avança par trois grands pas précipités vers Corentin et lui dit d'une voix entrecoupée mais violente. « Par pitié, monsieur, de quoi mes fils sont-ils accusés ? Et croyez-vous donc qu'ils soient venus ici ?» Le curé, qui semblait s'être dit en voyant la vieille dame « Elle va faire quelques sottises », baissa les yeux. « Mes devoirs et la mission que j'accomplis me défendent de vous le dire », répondit Corentin d'un air à la fois gracieux et railleur. Ce refus, que la détestable courtoisie de ce mirliflor rendait encore plus implacable, pétrifia cette vieille mère qui tomba sur un fauteuil auprès de l'abbé Gouget, joignit les mains et fit un vœu. « Où avez-vous arrêté ce pleurard ?» demanda Corentin au brigadier en désignant le petit écuyer de Laurence. « Dans le chemin qui mène à la ferme, le long des murs du parc, le drôle allait gagner le bois des closeaux. »« Et cette fille ?»« Elle ? C'est Olivier qui l'a pincée. »« Où allait-elle ? » ?»« Vers Gondreville. »« Il se tournait le dos ?» dit Corentin. « Oui, » répondit le gendarme. « N'est-ce pas le petit domestique et la femme de chambre de la citoyenne Cinq-Signes ?» dit Corentin au maire. « Oui, » répondit Goulard. Après avoir échangé deux mots avec Corentin de bouche à oreille, Peyrade sortit aussitôt en emmenant le brigadier. En ce moment, le brigadier Darcy entra, vint à Corentin et lui dit tout bas. « Je connais bien les localités, j'ai tout fouillé dans les communs. À moins que les gars ne soient enterrés, il n'y a personne. » Nous en sommes à faire sonner les planchers et les murailles avec les crosses de nos fusils. » Peyrade, qui rentra, fit signe à Corentin de venir et l'emmena voir la brèche de la Douve en lui signalant le chemin creux qui y correspondait. « Nous avons deviné la manœuvre, » dit Peyrade. « Et moi, je vais vous la dire, » répliqua Corentin. « Le petit drôle et la fille ont donné le change à ces imbéciles de gendarmes pour assurer une sortie au gibier. » « Nous ne saurons la vérité qu'au jour, » reprit Peyrade. « Ce chemin est humide, je viens de le faire barrer en haut et en bas par deux gendarmes. Quand nous pourrons y voir clair, nous reconnaîtrons, à l'empreinte des pieds, quels sont les êtres qui ont passé par là. »« Voici les traces d'un sabot de cheval, » dit Corentin. « Allons aux écuries. »« Combien y a-t-il de chevaux, ici ? » demanda Peyrade à M. d'Auxerre et à Goulard en rentrant au salon avec Corentin. Allons, monsieur le maire, vous le savez, répondez, lui cria Corentin en voyant ce fonctionnaire hésiter à répondre. Mais il y a la jument de la comtesse, le cheval de Gothard et celui de monsieur d'Auxerre. Nous n'en avons vu qu'un à l'écurie, dit Peyrade. Mademoiselle se promène, dit Durieux. Se promène-t-elle ainsi souvent la nuit, votre pupille? Dit le libertin Peyrade à monsieur d'Auxerre. Très souvent, répondit avec simplicité le bonhomme. Monsieur le maire vous l'attestera. Tout le monde sait qu'elle a des lubies, répondit Catherine. Elle regardait le ciel avant de se coucher, et je crois bien que vos baïonnettes, qui brillaient au loin, l'auront intriguée. Elle a voulu savoir, m'a-t-elle dit en sortant, s'il s'agissait encore d'une nouvelle révolution. « Quand est-elle sortie ? » demanda Peyrade. « Quand elle a vu vos fusils. »« Et par où est-elle allée ? » ?»« Je ne sais pas. » »« Et l'autre cheval ? » demanda Corentin. « Les gendarmes me l'ont pris, » dit Gothard. « Et où allais-tu donc ? » lui dit un des gendarmes. « Je suivais ma maîtresse à la ferme. » Le gendarme leva la tête vers Corentin en attendant un ordre. Mais ce langage était à la fois si faux et si vrai, si profondément innocent et si rusé, que les deux Parisiens s'entre-regardèrent comme pour se répéter le mot de Peyrade. « Ils ne sont pas gnôles. » Le gentilhomme paraissait ne pas avoir assez d'esprit pour comprendre une épigramme. Le maire était stupide. La mère, imbécile de maternité, faisait aux agents des questions d'une innocence bête. Tous les gens avaient été bien réellement surpris dans leur sommeil. En présence de ces petits faits, en jugeant ces divers caractères, Corentin comprit aussitôt que son seul adversaire était Mademoiselle de Cinq-Cygnes. Quelque adroite qu'elle soit, la police a d'innombrables désavantages. Non seulement elle est forcée d'apprendre tout ce que sait le conspirateur, mais encore elle doit supposer mille choses avant d'arriver à une seule qui soit vraie. Le conspirateur pense sans cesse à sa sûreté, tandis que la police n'est éveillée qu'à ses heures. Sans les trahisons, il n'y aurait rien de plus facile que de conspirer. Un conspirateur a plus d'esprit à lui seul que la police avec ses immenses moyens d'action. En se sentant arrêté moralement comme ils l'eussent été physiquement par une porte qu'ils auraient cru trouver ouverte, qu'ils auraient crochetée et derrière laquelle des hommes pèseraient sans rien dire, Corentin et Peyrade se voyaient deviner et jouer sans savoir par qui. « J'affirme, » vint leur dire à l'oreille le brigadier Darcy, « que si les deux messieurs de Simeuse et d'Auxerre ont passé la nuit ici, on les a couchés dans les lits du père, de la mère, de Mademoiselle de Cinq-Cygnes, de la servante, des domestiques, où ils se sont promenés dans le parc, car il n'y a pas la moindre trace de leur passage. « Qui donc a pu les prévenir ?» dit Corentin à Peyrade. « Il n'y a encore que le premier consul, Fouché, les ministres, le préfet de police et Malin qui savent quelque chose. « Nous laisserons des moutons dans le pays, » dit Peyrade à l'oreille de Corentin. « Vous ferez d'autant mieux qu'ils seront en Champagne, » répliqua le curé qui ne put s'empêcher de sourire en entendant le mot mouton et qui devina tout d'après ce seul mot surpris. « Mon Dieu !» pensa Corentin qui répondit au curé par un autre sourire. « Il n'y a qu'un homme d'esprit ici. Je ne puis m'entendre qu'avec lui. Je vais l'entamer. » « Messieurs, » dit le maire, qui voulait cependant donner une preuve de dévouement au premier consul et qui s'adressait aux deux agents. « Dites, citoyens, la République existe encore ?» lui répliqua Corentin en regardant le curé d'un air railleur. « Citoyens, » reprit le maire, « au moment où je suis entré dans ce salon et avant que j'eusse ouvert la bouche, Catherine s'y est précipitée pour y prendre la cravache, les gants et le chapeau de la maîtresse. » Un sombre murmure d'horreur sortit du fond de toutes les poitrines, excepté de celle de Gothard. Tous les yeux, moins ceux des gendarmes et des agents, menacèrent Goulard, le dénonciateur, en lui jetant des flammes. « Bien, citoyen maire, lui dit Peyrade, nous y voyons clair. On a prévenu la citoyenne Cinq-Cygnes bien à temps, ajouta-t-il en regardant Corentin avec une visible défiance. « Brigadier, mettez les poussettes à ce petit gars, » dit Corentin au gendarme, « et emmenez-le dans une chambre à part. Renfermez aussi cette petite fille, » ajouta-t-il en désignant Catherine. « Tu vas présider à la perquisition des papiers, » reprit-il en s'adressant à Peyrade, auquel il parla dans l'oreille. « Fouille tout, n'épargne rien. » « Monsieur l'abbé, dit-il confidentiellement au curé, j'ai d'importantes communications à vous faire. » Et il l'emmena dans le jardin. « Écoutez, monsieur l'abbé, vous me paraissez avoir tout l'esprit d'un évêque, et personne ne peut nous entendre, vous me comprendrez. Je n'ai plus d'espoir qu'en vous pour sauver deux familles qui, par sottise, vont se laisser rouler dans un abîme d'où rien ne revient. » Messieurs de Simeuse et d'Auxerre ont été trahis par un de ces infâmes espions que les gouvernements glissent dans toutes les conspirations pour bien en connaître le but, les moyens et les personnes. Ne me confondez pas avec ce misérable qui m'accompagne, il est de la police. Mais moi, je suis attaché très honorablement au cabinet consulaire et j'en ai le dernier mot. On ne souhaite pas la perte de messieurs de Simeuse. Si malin les voudrait voir fusillés, le premier consul, s'ils sont ici, s'ils n'ont pas de mauvaises intentions, veut les arrêter sur le bord du précipice car il aime les bons militaires. L'agent qui m'accompagne a tous les pouvoirs. Moi, je ne suis rien en apparence, mais je sais où est le complot. L'agent a le mot de malin, qui sans doute lui a promis sa protection, une place et peut-être de l'argent s'il peut trouver les deux Simeuse et les livrer. Le premier consul, qui est vraiment un grand homme, ne favorise point les pensées cupides. « Je ne veux point savoir si les deux jeunes gens sont ici, » fit-il en apercevant un geste chez le curé. « Mais ils ne peuvent être sauvés que d'une seule manière. Vous connaissez la loi du 6 Floréal en 10, elle amnistie les émigrés qui sont encore à l'étranger, à la condition de rentrer avant le premier vendémiaire de l'an 11, c'est-à-dire en septembre de l'année dernière. Mais messieurs de Simeuse ayant, ainsi que messieurs d'Auxerre, exercé des commandements dans l'armée de Condé, sont dans le cas de l'exception posée par cette loi. » Leur présence en France est donc un crime, et suffit, dans les circonstances où nous sommes, pour les rendre complices d'un horrible complot. Le premier consul a senti le vice de cette exception qui fait à son gouvernement des ennemis irréconciliables. Il voudrait faire savoir à messieurs de Simeuse qu'aucune poursuite ne sera faite contre eux s'ils lui adressent une pétition dans laquelle ils diront qu'ils rentrent en France dans l'intention de se soumettre aux lois en promettant de prêter serment à la Constitution. Vous comprenez que cette pièce doit être entre ses mains avant leur arrestation et datée d'il y a quelques jours. Je puis en être porteur. Je ne vous demande pas où sont les jeunes gens, dit-il en voyant le curé faire un nouveau geste de dénégation. Nous sommes malheureusement sûrs de les trouver. La forêt est gardée, les entrées de Paris sont surveillées et la frontière aussi. Écoutez-moi bien. Si ces messieurs sont entre cette forêt et Paris, ils seront pris. S'ils sont à Paris, on les y trouvera. S'ils rétrogradent, les malheureux seront arrêtés. Le premier consul aime les ci-devant et ne peut souffrir les républicains, et tout cela est tout simple. S'il veut un trône, il doit égorger la liberté. Que ce secret reste entre nous. Ainsi, voyez, j'attendrai jusqu'à demain, je serai aveugle. Mais défiez-vous de l'agent. Ce maudit provençal est le valet du diable, il a le mot de Fouché, comme j'ai celui du premier consul. « Si messieurs de Simeuse sont ici, dit le curé, je donnerai 10 pintes de mon sang et un bras pour les sauver. Mais si mademoiselle de Cinq-Signes est leur confidente, elle n'a pas commis, je le jure par mon salut éternel, la moindre indiscrétion et ne m'a pas fait l'honneur de me consulter. Je suis maintenant très content de sa discrétion, si toutefois discrétion il y a. Nous avons joué hier soir comme tous les jours au Boston, dans le plus profond silence jusqu'à 10h30, et nous n'avons rien vu ni entendu. » Il ne passe pas un enfant dans cette vallée solitaire sans que tout le monde le voie et le sache, et depuis 15 jours, il n'y est venu personne d'étranger. Or, messieurs d'Auxerre et de Simeuse font une troupe à eux quatre. Le bonhomme et sa femme sont soumis au gouvernement, et ils ont fait tous les efforts imaginables pour ramener leur fils auprès d'eux. Ils leur ont encore écrit avant-hier. Aussi, dans mon âme et conscience, a-t-il fallu votre descente ici pour ébranler la ferme croyance où je suis de leur séjour en Allemagne ? Entre nous, il n'y a ici que la jeune comtesse qui ne rende pas justice aux éminentes qualités de monsieur le premier consul. Finot, pensa Corentin. Si ces jeunes gens sont fusillés, c'est qu'on l'aura bien voulu, répondit-il à haute voix. Maintenant, je m'en lave les mains. Il avait amené l'abbé Gouget dans un endroit fortement éclairé par la lune, et il le regarda brusquement en disant ces fatales paroles. Le prêtre était fortement affligé, mais en homme surpris et complètement ignorant. Comprenez donc, monsieur l'abbé, reprit Corentin, que leurs droits sur la terre de Gondreville les rendent doublement criminels aux yeux des gens en sous-ordre. Enfin, je veux leur faire avoir affaire à Dieu et non à ses saints. Il y a donc un complot ? Demanda naïvement le curé. Ignoble, odieux, lâche et si contraire à l'esprit généreux de la nation, reprit Corentin, qu'il sera couvert d'un opprobre général. Eh bien, mademoiselle de Cinq-Signes est incapable de lâcheté, s'écria le curé. Monsieur l'abbé, reprit Corentin, tenez, il y a pour nous, toujours de vous à moi, des preuves évidentes de sa complicité. Mais il n'y en a point encore assez pour la justice. Elle a pris la fuite à notre approche, et cependant je vous avais envoyé le maire. Oui, mais pour quelqu'un qui tient tant à les sauver, vous marchez un peu trop sur les talons du maire, dit l'abbé. Sur ce mot, ces deux hommes se regardèrent, et tout fut dit entre eux. Ils appartenaient l'un et l'autre à ces profonds anatomistes de la pensée auxquels il suffit d'une simple inflexion de voix, d'un regard, d'un mot pour deviner une âme, de même que le sauvage devine ses ennemis à des indices invisibles à l'œil d'un Européen. « J'ai cru tirer quelque chose de lui, je me suis découvert, » pensa Corentin. « Ah, le drôle !» se dit en lui-même le curé. Minuit sonnait à la vieille horloge de l'église au moment où Corentin et le curé rentrèrent au salon. On entendait ouvrir et fermer les portes des chambres et des armoires. Les gendarmes défaisaient les lits. Peyrade, avec la prompte intelligence de l'espion, fouillait et sondait tout. Ce pillage excitait à la fois la terreur et l'indignation chez les fidèles serviteurs, toujours immobiles et debout. Monsieur d'Auxerre échangeait avec sa femme et mademoiselle Gouget des regards de compassion. Une horrible curiosité tenait tout le monde éveillé. Peyrade descendit et vint au salon en tenant à la main une cassette de bois de santal sculpté qui devait avoir été jadis rapportée de la Chine par l'amiral de Simeuse. Cette jolie boîte était plate et de la dimension d'un volume in quarto. Peyrade fit un signe à Corentin et l'emmena dans l'embrasure de la croisée. « J'y suis, » lui dit-il. « Ce Michu, qui pouvait payer 800 000 francs en or Gondreville à Marion et qui voulait tuer tout à l'heure Malin, doit être l'homme des Simeuses. L'intérêt qui lui a fait menacer Marion doit être le même qui lui a fait coucher Malin en joue. Il m'a paru capable d'avoir des idées. Il n'en a eu qu'une, il est instruit de la chose et sera venu les avertir ici. » Malin aura causé de la conspiration avec son ami le notaire, dit Corentin en continuant les inductions de son collègue. Et Michu, qui se trouvait embusqué, l'aura sans doute entendu parler des Simeuses. En effet, il n'a pu remettre son coup de carabine que pour prévenir un malheur qui lui a semblé plus grand que la perte de Gondreville. Il nous avait bien reconnus pour ce que nous sommes, dit Peyrade. Aussi, sur le moment, l'intelligence de ce paysan m'a-t-elle paru tenir du prodige. Oh, cela prouve qu'il était sur ses gardes, répondit Corentin. Mais après tout, mon vieux, ne nous abusons pas. La trahison pue énormément et les gens primitifs la sentent de loin. Nous n'en sommes que plus forts, dit le Provençal. Faites venir le brigadier Darcy, cria Corentin à un des gendarmes. « Envoyons à son pavillon, » dit-il à Peyrade. « Violette, notre oreille y est, » dit le Provençal. « Nous sommes partis sans en avoir eu de nouvelles, » dit Corentin. « Nous aurions dû emmener avec nous Sabatier. Nous ne sommes pas assez de deux. »« Brigadier, » dit-il en voyant entrer le gendarme et le serrant entre Peyrade et lui, « n'allez pas vous laisser faire la barbe comme le brigadier de Troyes tout à l'heure. Michu nous paraît être dans l'affaire. Allez à son pavillon, ayez l'œil à tout. » Et rendez-nous en compte. Un de mes hommes a entendu des chevaux dans la forêt au moment où l'on arrêtait les petits domestiques, et j'ai 4 fiers gaillards aux trousses de ceux qui voudraient s'y cacher, répondit le gendarme. Il sortit, et le bruit du galop de son cheval, qui retentit sur le pavé de la pelouse, diminua rapidement. Allons, ils vont sur Paris ou rétrograde vers l'Allemagne, se dit Corentin. Il s'assit, tira de la poche de son Spencer un carnet, écrivit 2 ordres au crayon, les cacheta et fit signe à l'un des gendarmes de venir. Au grand galop à 3, éveillez le préfet et dites-lui de profiter du petit jour pour faire marcher le télégraphe. Le gendarme partit au grand galop. Le sens de ce mouvement et l'intention de Corentin étaient si clairs que tous les habitants du château eurent le cœur serré. Mais cette nouvelle inquiétude fut en quelque sorte un coup de pluie dans leur martyre, car en ce moment ils avaient les yeux sur la précieuse cassette. Tout en causant, les deux agents épiaient le langage de ces regards flamboyants. Une sorte de rage froide remuait le cœur insensible de ces deux êtres qui savouraient la terreur générale. L'homme de police a toutes les émotions du chasseur. Mais, en déployant les forces du corps et de l'intelligence, là où l'un cherche à tuer un lièvre, une perdrix ou un chevreuil, il s'agit pour l'autre de sauver l'état ou le prince, de gagner une large gratification. Ainsi, la chasse à l'homme est supérieure à l'autre chasse de toute la distance qui existe entre les hommes et les animaux. D'ailleurs, l'espion a besoin d'élever son rôle à toute la grandeur et à l'importance des intérêts auxquels il se dévoue. Sans tremper dans ce métier, chacun peut donc concevoir que l'âme y dépense autant de passion que le chasseur en met à poursuivre le gibier. Ainsi, plus ils avançaient vers la lumière, plus ces deux hommes étaient ardents. Mais leur contenance, leurs yeux restaient calmes et froids, de même que leurs soupçons, leurs idées, leurs plans restaient impénétrables. Mais, pour qui eût suivi les effets du flair moral de ces deux limiers à la piste des faits inconnus et cachés, pour qui eût compris les mouvements d'agilité canine qui les portaient à trouver le vrai par le rapide examen des probabilités, il y avait de quoi frémir. Comment et pourquoi ces hommes de génie étaient-ils si bas quand ils pouvaient être si hauts? Quelle imperfection, quel vice, quelle passion les ravalaient ainsi? Est-on homme de police comme on est penseur, écrivain, homme d'État, peintre, général, à la condition de ne savoir faire qu'espionner, comme ceux-là parlent, écrivent, administrent, peignent ou se battent? Les gens du château n'avaient dans le cœur qu'un même souhait. Le tonnerre ne tombera-t-il pas sur ces infâmes? Ils avaient tous soif de vengeance. Aussi, sans la présence des gendarmes, y aurait-il eu révolte. « Personne n'a la clé du coffret ?» demanda le cynique Peyrade en interrogeant l'assemblée autant par le mouvement de son gros nez rouge que par sa parole. Le Provençal remarqua, non sans un mouvement de crainte, qu'il n'y avait plus de gendarmes. Corentin et lui se trouvaient seuls. Corentin tira de sa poche un petit poignard et se mit en devoir de l'enfoncer dans la fente de la boîte. En ce moment, on entendit d'abord sur le chemin, puis sur le petit pavé de la pelouse, le bruit horrible d'un galop désespéré. Mais ce qui causa bien plus d'effroi fut la chute et le soupir du cheval qui s'abattit des quatre jambes à la fois au pied de la tourelle du milieu. Une commotion pareille à celle que produit la foudre ébranla tous les spectateurs quand on vit Laurence que le frôlement de son amazone avait annoncé. Ses gens s'étaient vivement mis en haie pour la laisser passer. Malgré la rapidité de sa course, elle avait ressenti la douleur que devait lui causer la découverte de la conspiration, toutes ses espérances écroulées. Elle avait galopé dans des ruines en pensant à la nécessité d'une soumission au gouvernement consulaire. Aussi, sans le danger que couraient les quatre gentilshommes et qui fut le topic à l'aide duquel elle dompta sa fatigue et son désespoir, fut-elle tombée endormie. Elle avait presque tué sa jument pour venir se mettre entre la mort et ses cousins. En apercevant cette héroïque fille, pâle et les traits tirés, son voile d'un côté, sa cravache à la main, sur le seuil d'où son regard brûlant embrassa toute la scène et la pénétra, chacun comprit, au mouvement imperceptible qui remua la face aigre et trouble de Corentin, que les deux véritables adversaires étaient en présence. Un terrible duel allait commencer.